Donc, le titre de mon message, c'est « Comment agir face aux situations difficiles ?» Y a-t-il quelqu'un ici ou quelqu'un qui n'a jamais eu de difficultés dans sa vie ? J'aimerais bien le voir. Personne ? Donc, ça, c'est le titre de mon message. Et quand je dis le mot « difficulté », ça veut dire aussi « problème », « handicap », « obstacle », « attaque », « détresse », etc., etc. Et quand je parle aussi donc de difficultés, chers amis, ça veut dire toutes sortes de difficultés. Difficultés matérielles, difficultés sur le plan financier, pratique, familial, physique, sentimental, émotionnel, rationnel, caractériel, spirituel, etc., etc., etc. Nous avons tous connu ça plus ou moins l'un ou l'autre. Et donc merci pour ceux qui ont prié pour nous. Beryl était à l'hôpital mardi. Et puis c'était comme l'ennemi de Dieu qui me dit, elle va entrer, elle ne sort plus. Et ça c'est déprimant. Mais le même soir elle est revenue parce qu'elle est allée en urgence et ils n'aimaient pas garder les gens en urgence. Donc Myril avait faim, ils n'ont rien donné à manger, elle avait soif, ils ont donné un petit gobelet, ce que j'ai compris, elle avait froid, elle a demandé pour une couverture, ils n'ont pas donné de couverture. Donc cette souffrance plutôt d'être en urgence, si vous avez... Donc on a vu le médecin ce matin, il ne savait plus quoi faire. Donc c'est lui qui a téléphoné pour l'ambulance. C'est lui qui a décidé d'envoyer Beryl en urgence, mais ce n'était pas la solution. Et Dieu était bon pour nous, donc elle est revenue. Et depuis cela, ça va beaucoup mieux. Merci pour vos prières. C'est la première chose que j'aimerais dire. Et la première chose, je crois, c'est bien, c'est Robert qui l'a dit dans sa prière, merci pour la prière. C'est le moyen facile, direct, que tout le monde a ici pour être en contact avec notre Dieu, c'est la prière. S'il y a une difficulté, la première chose, si vous êtes chrétien, et je pense que quand vous êtes chrétien et chrétienne, première chose, Dieu vous invite, parce qu'il est notre Père, de prendre soin de nous, mais c'est à nous de prier. Quelle invention merveilleuse. Vous êtes d'accord? Alors, c'est bien. Je peux mieux entendre aujourd'hui pour la première fois pendant des années, parce que ce jeudi, vers 11h, j'étais à Tourcoing, au centre, juste près de la mairie de Tourcoing, et on m'a fourni des aides auditives. Donc, pour la première fois, j'entends les chants Jacques comme il faut l'entendre. C'est très envahissant, même pour entendre ma voix, je n'ai plus l'habitude de ma propre voix. Donc, selon l'enseignement que Beryl et moi nous avons reçu dans notre formation de la relation d'aide, normalement, on a appris qu'il y a deux façons d'agir quand il y a des difficultés de notre vie. Vous êtes en difficulté en ce moment, il faut prier pour vous. Il y a deux façons d'agir quand on est en difficulté, nous avons appris, soit c'est le combat ou c'est la fuite. C'est le combat ou c'est la fuite. On va se battre contre ou on va fuir. Pour le combat, c'est donner juste, si tu veux. Tu vois, j'avais des difficultés, mais merci beaucoup. Jean-Luc, ton nom veut dire grâce de Dieu et Luc, ça veut dire lumière. On a parlé justement de la lumière dans nos champs. Merci, tu es une lumière pour beaucoup de gens, tu es une lumière pour moi ce matin. Donc pour le combat, je vous donne deux exemples. D'abord Josué. Nous connaissons tous Josué. Il y a même un nègre spirituel sur Josué. Josué fait the Battle of Jericho. Josué, il s'est battu pour faire tomber les murailles de Jéricho. Complètement faux parce qu'il ne s'est pas battu. Il a marché avec le peuple 13 fois autour de la ville, il faut le faire quand même, une fois par jour. Et le septième jour, il a fait 6 fois, donc 13 fois en tout. Mais c'est Dieu qui a fait crouler les murs. Ce n'est pas Josué. Mais dans le nécro spirituel, on dit Josué, il a combé pour faire tomber. Oui, le combat dans ce sens, c'est dans ce sens-là qu'il faut obéir à Dieu. J'ai aussi comme exemple David contre Goliath. David s'est battu lui-même et est devenu vainqueur par son habileté de lancer d'une façon précise des cailloux avec sa fronde. Donc c'est lui-même qui a pris une bonne habitude parce qu'il gardait les brebis de son papa. Il avait une fronde et quand il y avait des brebis qui n'étaient pas obéissantes, il a lancé des pierres pour que les brebis reviennent. Il a pris cela quand il a gardé les brebis de son père donc. Et quand il s'est battu contre Goliath, il y avait justement une des pierres polies, parce qu'il a pris cinq, mais une pierre polie, juste tombée ici, dans la tête de Goliath, et Goliath est tombé. Il paraît que Goliath faisait 2,96 m, presque 3 mètres. Je connais des gens qui sont grands, quand je vais au champ de temps en temps, il y a des gens qui sont une tête ou deux têtes au-dessus de moi. J'ai dit, mais quel géant! Mais c'est rien encore en comparaison avec Goliath. Vous vous rendez compte? 3 mètres. Je pense qu'en France, il n'y a pas de lit de 3 mètres. C'est énorme. Donc cet homme qui était là pour comme un défi contre l'armée d'Israël, et puis le petit, parce qu'il était petit, dans ce sens, il était jeune encore, c'est dit, il était blond, il était beau, mais toute l'armée d'Israël avait peur de Goliath, mais pas David. Donc il est venu, il dit, toi, tu insultes le Dieu d'Israël. Et il, dans un sens, dans son cœur, David, il s'est mis en colère parce que Goliath, il a insulté le Dieu, son Dieu. Est-ce que nous sommes comme ça? Quand les gens insultent notre Dieu, est-ce que nous sommes en colère? Je pense que nous sommes dans un monde où on entend tout le temps à la télévision aussi, oh my God, oh mon Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu, mais ils disent ça tout le temps, et ça ne veut rien dire. De temps en temps, je dis, mais ça rime à quoi? Ils ne croient pas en Dieu, et ils emploient le mot de Dieu tout le temps. Ou disent Jésus, c'est pareil. Est-ce que nous sommes en colère quand on fait cela? Ma vie. Donc, David, dans ce sens, il s'est combattu avec sa fronde et le Goliath, le géant, est tombé. Moi, je ne sais pas si je pouvais faire ce que David a fait, mais il a coupé la tête de Goliath et puis il l'a pris avec lui, je crois même dans sa tente. Et il l'a montré donc aussi à Saül qui était le roi. Et plus tard, donc, nous voyons que David est devenu lui-même le roi d'Israël. Il y a donc une application pour nous aussi. Nous devenons, chers amis, nous devenons vainqueurs par la pratique de l'enseignement de la parole de Dieu. Et pour être donc, pour mettre en pratique la parole de Dieu, nous devons d'abord lire la parole de Dieu, apprendre la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Et Dieu m'a parlé pendant cette semaine, il y a 2-3 jours, Dieu m'a parlé très fortement par un verset que j'ai appris dès ma nouvelle naissance. C'est Galates 2, verset 20. Est-ce que vous le connaissez? Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu, pas au Fils de Dieu, du Fils de Dieu. Et après cela donc, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Ça c'est pour moi, le Seigneur m'a parlé pendant la nuit, c'est par la méditation de ce verset, il m'a montré, c'est l'identification, notre identification avec Jésus. J'ai été crucifié avec Christ, sa croix est devenue ma croix. C'est fini pour la vieille vie, sans Dieu maintenant, sans Jésus maintenant, je suis devenu chrétien. J'ai été crucifié avec Christ. Ma vieille vie, c'est fini. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Sa résurrection est ma résurrection. C'est l'identification avec Jésus dans sa mort et dans sa vie, dans sa résurrection. Et si je vis maintenant par la chair, dans la chair, je vis par la foi du Fils de Dieu, comme Jésus, quand il était sur la terre, il a toujours une relation parfaite à 100% avec son Père. Et moi, je peux l'avoir aussi, comme le Fils prodigue. L'identification dans la relation avec Dieu. Et à la fin, il y a ces deux aspects. C'est dans ce sens l'identification avec l'apôtre Paul, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc il y a cinq aspects d'identification dans un verset. Mais on peut seulement venir pour comprendre cela quand on médite, pas seulement qu'on apprend par cœur. D'abord, il faut lire le verset, je pense. Après cela, il faut l'apprendre par cœur. Après, il faut le méditer. Et après, l'identification va venir. Avec ce verset, en tout cas. Crucifié avec Christ, ressuscité avec Christ, la vie de Christ. Et Paul dit, il m'a aimé. Et parce qu'il m'a aimé, il se livrait lui-même pour moi. Si vous posez la question ce matin. Vous pouvez venir ici, dans cette salle, pendant 25, 30, 40 ans. Sans être chrétien, juste par religion, par habitude. Est-ce que vous connaissez Jésus de cette façon, comme Paul a dit? Il m'a aimé, Jésus vous a tellement aimé, il s'est donné lui-même pour moi. Est-ce qu'un jour dans votre vie, vous avez dit, Jésus, il m'a aimé, il m'aime encore, et il s'est livré sur la croix, c'est pour moi. On peut même prendre la Sainte Cène pendant 30, 40 ans, 50 ans, sans être chrétien. On est religieux, mais on n'est pas chrétien. Et s'il y a une chose que Dieu déteste, c'est la religion. Ça veut dire que la religion remplace le lien direct avec lui, avec Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de gens qui ont religion. On peut être catholique, protestant, évangélique, sans être chrétien. On peut être dans une salle pendant, ou dans une église pendant des années, sans être chrétien. Ça ne veut rien dire.
Alléluia, je suis aimé.
Alléluia, il y a au moins un. Tu peux naître dans un garage sans être une voiture. Non, merci. Quel témoignage. Et cela est arrivé avec dans ma famille, parce que ma mère était catholique, mon père était protestant, et moi j'ai été religieux. Je ne savais vraiment pas quel est le meilleur chemin. Et à 21 ans, j'ai compris que ce n'est pas être catholique, protestant ou évangélique, ça ne veut rien dire tout cela pour Dieu. Parce que c'est seulement le manteau. Dieu regarde le cœur. Et donc j'ai dit à ma maman, un jour, je suis allé dans une réunion de jeunes, là on a annoncé la bonne nouvelle de Jésus. Et j'ai pensé à ça aussi. Normalement, nous évangéliques, on apprend, il y a au moins quatre choses qu'il faut contempler. Pour amener les gens à Jésus, il y a quatre choses. D'abord, il doit religer, doit se rendre compte. Elle doit se rendre compte qu'elle est pécheur, pécheresse. Deuxièmement, que Jésus est mort pour nos péchés. Et troisièmement, il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu. Et quatrièmement, il faut croire que Jésus est mort pour moi. Et moi, je n'ai pas fait les quatre comme ça. Pas du tout. Je ne suis pas rendu compte que j'étais un pauvre pécheur perdu quand je me suis converti. Je n'ai pas compris l'œuvre de Jésus non plus. Mais je sais qu'une chose, que je voulais devenir enfant de Dieu. Et Jean 1, 12 m'a aidé. C'est la parole de Dieu. À tous ceux qui l'ont vu Jésus, il a donné le pouvoir, le droit de devenir enfant de Dieu. Donc ce n'est pas une affaire de quatre lois, parce qu'il a les quatre lois spirituelles. Moi, je ne suis pas passé par les quatre lois spirituelles. Je suis passé directement par Jésus. Et c'est ça que Dieu demande. Parce que avant votre conversion, vous n'avez pas connu ces quatre lois spirituelles. Personne. C'est seulement après qu'on apprend la théorie, comment faire. Mais moi, je ne suis pas passé par ça. Je suis passé directement par Jésus. Et quand on parle de Dieu, vous savez, ça ne veut rien dire pour moi. Beaucoup de gens croient en Dieu, mais ça ne change rien. Mes parents étaient en Hollande, ils sont émigrés aux États-Unis. Si on croyait que mes parents étaient là ou non, ça ne change rien, ils étaient aux États-Unis. Ma soeur habitait toujours aux États-Unis, mes parents sont décédés là. Mais ça ne veut rien dire de croire en Dieu, Dieu croit, Dieu est là, si vous le croyez ou non, ça ne change rien. Ce qui est important, c'est que Dieu a un fils. Il y a beaucoup de religions, il y a beaucoup de gens. Dans certaines religions, on ne croit pas que Dieu a un fils. C'est ça le grand problème. Mais nous croyons que Jésus est le fils de Dieu, moi pour nous. Il m'a aimé, il s'est livré lui-même pour moi. Et c'est ça que je retiens. Donc, pendant la nuit, Dieu veut nous parler. Il paraît que nos pensées sont encore plus importantes pendant la nuit que pendant la journée. On ne se rend pas compte. Je suis un de ces hommes qui rêve beaucoup. Moi, je rêve beaucoup pendant la nuit. Parfois il y a des rêves positifs, parfois non. Et je dis, j'ai encore un rêve. Et parfois les rêves ne sont pas toujours bien, parce que les choses qu'on n'a pas bien résolues pendant la journée, pendant la nuit, parfois il y a des rêves. Je vais vous demander, parce que ça c'est notre sujet, de parler de songes et de rêves. Dieu m'a parlé aussi par des songes. Les songes sont tous de Dieu, les rêves souvent sont des hommes, des situations difficiles. Donc, la première chose, quand il y a une difficulté, combat, combat, combat. Parfois c'est Dieu qui combat pour nous, parfois nous devons le faire nous-mêmes par le moyen que Dieu nous a donné, comme David avec sa fronde. Parfois, quand il y a une grande difficulté, Dieu dit fuir. Combat ou fuir. Et pour la fuite, j'ai trouvé deux versets dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 6, 18, pour ceux qui prennent les notes, et 1 Corinthiens 10, verset 14. 1 Corinthiens 6, verset 18 parle, il faut fuir la débauche. Et le mot débauche, ça veut dire, c'est regardé, fornication. Il faut aussi fuir, 1 Corinthiens 10, 14, l'idolâtrie, les faux dieux. Et je crois que notre monde est rempli de faux dieux. Il faut fuir l'idolâtrie. Parfois, on ne peut pas fuir et on doit se réfugier en Dieu. Quel privilège on peut se mettre dans les bras de notre Père Céleste. Parfois, on ne peut pas se battre et on ne peut pas fuir, mais on peut se mettre dans les bras de Dieu. On s'approche de Dieu dans la prière pour être sur son cœur et on prend le temps pour méditer la Bible. Et c'est ça, Robert, donc, il a dit ce matin, il a cité dans sa prière le mot prière. Merci, Robert. On a besoin de la prière avant toute chose. Ça veut dire un déclic normal, naturel. Souvent, quand on a un problème physique, première chose, je veux téléphoner le médecin pour un rendez-vous. Le rendez-vous, d'abord avec Dieu le Père qui est le grand médecin. Vous êtes d'accord? Merci pour les médecins parce qu'il faut les bénir. J'ai un ami médecin depuis longtemps. Il vient chez moi à la maison tous les mois normalement. En ce moment, un petit peu moins à cause du Covid. Mais je vous dis quelque chose, oubliez-le après. Mais il paraît, dans le corps médical, il y a beaucoup de gens qui se suicident. Plus qu'on le pense. Être médecin, ce n'est pas un cadeau, il faut prier pour eux. Et j'ai dit à mon médecin, j'ai prié pour toi, j'ai prié pour ta femme et pour tes enfants. Parce que c'est un métier très dur. Il faut comprendre ça. Merci pour les hommes qui ont eu cette vocation pour devenir médecin, parce que ce n'est pas toujours un cadeau. Donc merci pour la prière, parce qu'on peut être en contact avec Dieu directement et Dieu répond. Il faut prendre le temps, pas seulement pour lire la parole de Dieu, pour méditer la parole de Dieu. C'est comme les vaches, comme on appelle ça, les vaches, ils mangent et puis après ils... Voilà, ça c'est le mot. Et je sais que David, il a médité la parole de Dieu, il a écrit beaucoup de psaumes. David n'était pas seulement roi, mais il était aussi un grand musicien, il jouait de la harpe. Et il a composé beaucoup de chants, beaucoup de psaumes. Merci pour les psaumes. Dans nos réunions d'enfants, les enfants disent souvent les psaumes. Merci Seigneur pour la méditation, parce que ce n'est pas seulement qu'il a fait la musique, mais il a aussi écrit les paroles. Et on bénéficie encore de ça, parce que dans ce sens, c'est la méditation de ce que Dieu a dit, ce qu'il a vécu avec son Dieu. Et je pense au psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et par grâce, je peux dire merci Seigneur. Parce que Dieu a toujours pourvu à nos besoins. Je ne sais pas comment, mais cette semaine, mardi, mercredi, jeudi, toute la journée, il y a des gens qui viennent travailler chez nous pour mettre une nouvelle porte en PVC, parce que la porte en bois, elle a depuis 35-40 ans. Ça commence énormément. Donc on va avoir une nouvelle porte en PVC et pour les fenêtres, on va avoir de nouvelles fenêtres en haut, tout en PVC. Dus ça coûte quand même 9000 euros. Et il faut le payer. Je reçois un coup de téléphone cette semaine d'un ami en Allemagne, un ami chrétien. Il dit, John, ma femme et moi, nous avons pensé à vous. Je vais vous envoyer 7000 euros. Ce n'est pas 7 euros. 7000 euros. Je n'ai rien demandé. Dieu pourvoit à nos besoins. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Dieu est bon. Moi, je vois ça dans ma vie tout le temps, sur tous les plans. Soit qu'il y a des personnes, soit qu'il y a un moyen qui vient juste au bon moment. J'ai toujours vu Dieu pourvoir parce qu'un jour, j'ai mis ma vie entre les mains du bon berger. L'Éternel est mon berger. Et par grâce, qui se dit, je ne manquerai de rien. Et Dieu est pour vous pareil. Il veut être votre père, il veut prendre soin de vous, il veut être votre bon berger. Je veux vous encourager ce matin. Vous pouvez avoir des difficultés et je peux aller plus loin, chers amis. Grâce à vos difficultés, vous pouvez faire du progrès souvent. Il y a des gens qui ont fait du progrès dans leur vie grâce à leur maladie, grâce à leurs difficultés, grâce aux attaques. Et je vois ça dans la vie de Josué. Comment est-ce qu'il a gagné les combats? Par la méditation, souvent. Quand tu prends Josué chapitre 1, méditez la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu. Ce que Moïse a reçu de Dieu, toi tu vas le méditer. Pour avoir du succès dans ta vie, le mot succès donné. Le mot succès n'est pas un sale mot. Dieu veut que nous ayons tous du succès spirituel avec notre Dieu. Lui d'abord. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Le roi David dit donc méditer beaucoup. Et je vois ça dans le Nouveau Testament. Quand on prend l'évangile selon Matthieu, l'évangéliste Matthieu, Marc et Luc et Jean, mais surtout Matthieu, chaque fois, comme Dieu l'a dit, il dit. Comme Dieu l'a dit dans l'Ancien Testament, chaque fois, quand tu prends Matthieu chapitre 1, 2, 3, ça grouille. Des allusions vers l'Ancien Testament, ce que Dieu avait dit déjà. Dans ce sens, c'est des accomplissements. Matthieu chapitre 1, 2, 3, des accomplissements, ce que Dieu avait dit déjà avant. Des prophéties accomplies. Et quand on prend les épîtres de l'apôtre Paul, pareillement, souvent, il cite les versets déjà donnés dans l'Ancien Testament. Ce sont des accomplissements. Et Dieu veut qu'on connaisse seulement, pas seulement le Nouveau Testament, mais aussi l'Ancien Testament. Il y a quelque chose que j'ai écrit hier, à la main. Je peux le lire maintenant pour vous. Parfois, la difficulté reste, Dieu m'a montré. Parfois, la difficulté reste, mais nous pouvons changer grâce à Dieu. La difficulté est là, c'est comme un obstacle, c'est comme une muraille, c'est comme un mur. Et Dieu me le montrait. Souvent, Dieu me parle pendant que je suis au lit. Et on trouve ce principe en psaume 18-30, pour ceux qui prennent des notes. Psaume 18-30, c'est un psaume merveilleux. C'est ma femme qui me l'a dit hier. Le psaume 18, ça vaut la peine de dire. Qu'est-ce qu'il dit au verset 30? Dieu parle et David dit, avec mon Dieu, je franchirai une muraille. Je vais au-dessus de la muraille. La muraille est là comme une difficulté. La muraille reste la difficulté, mais je peux la surmonter grâce à Dieu. J'ai pensé à un accomplissement de cela dans le Nouveau Testament. Qui connaît? 2 Corinthiens 12, versets 8 à 10. Qu'est-ce que Paul dit? 2 Corinthiens 12, s'apprête à 8 à 10. Il parle d'une écharde dans la chair. Vous vous souvenez de ça? Une écharde dans la chair. On ne sait pas quelle était l'écharde. Il avait des problèmes des yeux, c'est vrai. Il avait peut-être une autre, peut-être il y avait des difficultés, des attaques. Mais Paul, il avait une écharde dans la chair. Qu'est-ce qu'il a fait avec? Est-ce qu'il est allé voir un médecin? Il dit, j'ai prié 3 fois et Dieu a dit non. L'écharde reste, mais ma grâce suffit. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Oh, vous dites, c'est facile, hein? Comme réponse, ma grâce suffit. quelqu'un vient te voir, tu as une grande difficulté, je ne sais pas, ta difficulté est difficile, mais la grâce de Dieu est là pour toi. Combien de fois j'ai entendu, ça va, tu vas bien, oui, grâce à Dieu. Mais souvent les gens ne savent pas ce qu'ils disent. Mais la grâce de Dieu suffit. Et je connais ça dans ma vie parce qu'il y a des moments très difficiles, des attaques très difficiles. Les gens qui étaient impolis, les gens qui étaient difficiles, j'ai été au bureau de police une fois, à Tourcoing pendant un certain temps, je n'avais rien fait. J'étais clean à 100%. Mais toute la journée, j'ai été presque là au bureau de police, attaqué par un jeune homme qui a dit, il est venu ce monsieur, il m'a attaqué et il a volé ma montre. Mais je n'ai pas besoin de montre. Il y a quelqu'un qui m'a, ou quelqu'une qui m'a encore offert une montre à Noël, parce que c'est mon anniversaire le 26 décembre. Merci de penser à ça. En ce moment, je n'ai pas besoin de montre. Mais Dieu est bon pour nous. Mais j'étais là au bureau de police, attaqué par un jeune homme qui dit, oui, tu as jeté des pierres contre ma voiture. Il est sorti, il m'a pris par les bras et quand il m'a laissé, il a pris ma montre. Je ne l'ai jamais vu dans ma vie. Et après, il est venu avec son père l'après-midi. Il est revenu au bureau de police. Et pour être cru par la police, ce n'est pas une mince affaire, vous savez. Mais le problème restait, mais j'ai confiance en Dieu. Et c'était justement en ce moment qu'il y avait une exposition biblique à Tourcoing. Et j'étais un des responsables. Et ce jeune homme, il est venu avec sa classe. Une école catholique, il est venu là et il a vu ma voiture blanche, et je sais pas, il m'a vu, je crois, dans un imperméable blanc ou gris clair, et il a dit, cet homme-là, il a demandé mon adresse à un autre collaborateur, et c'est comme ça qu'il a trouvé la police est venue le matin, le samedi matin, je me souviens encore, et j'ai dit à la police, est-ce que vous avez besoin de moi parce que je m'occupe de jeunes, je suis pasteur. Oui, non, il dit, c'est pas ça, c'est vous. On vous a accusé, et c'est comme ça que je suis allé au bureau de police, mais pour rien. Il y a de temps en temps des attaques, mais quoi faire? J'ai confiance en Dieu. Et peut-être vous avez aussi des attaques comme ça. Donc, l'apôtre Paul, il avait un écharpe dans la chair, on ne sait pas de quoi il s'agit, mais Paul, il avait besoin d'une délivrance. Et Dieu a dit donc, ma grâce suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Vous savez que quand on est dans la faiblesse, en ce moment, on ne se rend même pas compte de la grandeur, de l'amour de Dieu, du soin de Dieu. Parfois, quand les autres parlent de leurs problèmes, on peut compatir. Mais quand on a soi-même, c'est très différent. Quand on a un cancer ou quand on a une maladie qui est encore une maladie orpheline, ça existe encore. Ça, c'est très différent. Quand toi, tu l'as toi-même. Quand les autres l'ont, c'est une chose, tu peux compatir. Mais quand tu l'as toi-même, c'est très différent. Et Dieu te dit ce matin, parce que ça se peut, si tu ne connais pas tous, ma grâce te suffit. La grâce de Dieu est merveilleuse. Application. Donc Dieu donne sa grâce et sa réponse, mais nous devons vouloir changer en acceptant la réponse de Dieu. Sa grâce est suffisante pour toi et pour moi. Je l'ai expérimenté dans ma vie. Cette semaine n'était pas facile, mais Dieu a donné sa grâce. Je suis déjà à ma dernière feuille. C'est une consolation peut-être pour certains. Et j'ai mis quelque chose. Parfois, il faut se battre. Parfois, il faut se battre. Quatre façons comment agir face aux difficultés. Et pour cela, mes chers amis, j'ai trouvé quelque chose qui m'a aidé dans cette salle. Je ne sais pas qui est à l'origine de cela, mais sur le mur, vous trouvez quatre verbes. Le premier verbe parle de Dieu, le Père. Deuxième, Dieu, le Fils de Dieu, Jésus, le Fils de Dieu. Troisième, du Saint-Esprit, parce que c'est Pentecôte aujourd'hui. Quatrièmement, ça parle de moi, de vous. Il y a aimer, libérer, guider, envoyer. Et ces quatre verbes m'ont parlé il y a 3-4 semaines quand j'étais ici. Je dis, mais mince, C'est bon pour un message. Et je vais l'employer ce matin. Qui a mis ces quatre mots? Jean-Luc, est-ce que tu es au courant? C'est Robert? Encore le petit Robert? Le petit Robert encore? Merci Robert. Aimer, libérer, guider, envoyer. Ces quatre verbes dans cet ordre. Bien choisi.
En fait, le départ, c'était YouTube.
Comment? Comment?
C'était YouTube le départ.
Ah, c'est merveilleux. Donc, je vais parler d'abord aimer. Parfois, il faut se battre. Aimer. Comment aimer? Se laisser aimer par Dieu et aimer nos prochains avec l'amour de Dieu. Comment est-ce que nous recevons l'amour de Dieu? Romains 8, verset 5. L'amour de Dieu a été versé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Romains 8, verset 5. C'est un verset que j'ai mis en musique il y a longtemps. Verset merveilleux. L'amour de Dieu est là pour vous, pour recevoir par l'amour de Dieu, par le Saint-Esprit. Et cet amour est pour le monde entier. Jean 3, 16, que vous connaissez certainement pas que. Que Dieu a tant aimé le monde. Pourquoi on trouve ce verset, Jean 3, 16, dans la Bible? À cause d'un petit gars qui s'appelle, ça commence avec un N. Nicodème. Parce que Nicodème est allé vers Jésus pendant la nuit. Et c'est là, c'est Dieu qui a dit à Nicodème qu'à Dieu a tant aimé le monde. C'est à cause de Nicodème. On oublie de temps en temps le contexte. Il y a un Jean 4, 8. Sans regarder, qu'est-ce qu'on trouve en Jean 4, 8? Dieu est amour. Souvent, les enfants dans les colonies de vacances chrétiennes, ils mettent en pyrogravure ces trois mots. Dieu est amour, en pyrogravure. C'est souvent. Beaucoup de gens en France souffrent de l'anxiété, dans les autres pays ici, mais l'amour de Dieu chasse la crainte, selon 1 Jean 4, 18. Qu'est-ce qu'on trouve en Jean 1 Jean 4, 18? L'amour parfait bannit la crainte. Je ne sais pas combien de millions d'anxiolytiques sont vendus en France cette année. Il y a beaucoup de gens qui sont criblés par l'anxiété, par la crainte. Peut-être vous aussi, vous avez connu. Moi, j'ai connu ça. La crainte après la dépression, souvent. Souvent, les médecins, ils reçoivent des gens, 70% des gens qui viennent pour les problèmes physiques, ça vient de ce qu'on a sur le plan mental. 70 à 80%, c'est énorme. Alors ils donnent des anxiolytiques, mais qu'est-ce que les anxiolytiques font? Ils cachent le problème, c'est tout. Vous êtes d'accord jusque maintenant? Je ne suis pas médecin, mais je sais ça. 1 Jean 4, 18, c'est une promesse de Dieu. L'amour de Dieu bannit la crainte. Parce que si Dieu est là, n'importe quel problème vous pouvez avoir, quelle attaque vous pouvez avoir, Dieu est avec moi. Il a le deuxième verbe, après aimer, se libérer. Donc, aimer pour moi, ça parle de Dieu le Père, et l'amour de Dieu le Père à travers de moi pour les autres. Libérer. J'ai pensé beaucoup ça. Comment être libéré? Il y a un verset en Jean 8, 36. Est-ce que vous le connaissez? Si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Libre par son sang versé pour la rémission de nos péchés. Selon Hébreux 9, 22. Nous sommes libres parce que Jésus a versé son sang pour nous. C'est pour cela qu'on prend la Sainte Cène, le pain et le vin. Et ça parle du sang de Jésus. Pour nous libérer. Beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens, parfois des chrétiens aussi, on sait un psychiatre avec des problèmes de culpabilité. Mais on trouve dans la Bible, Romains 8, verset 1. Qui connaît ce verset? Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Vous connaissez ce verset? C'est un verset merveilleux. Il y a ceux qui font comme ça. Pas parce qu'elle est une âne, mais... Elle est d'accord. Tu es d'accord? Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'ai pensé à David Wilkerson. C'est un gars qui est allé à New York un jour, un jeune pasteur. Il a vu des jeunes drogués. Il a prié pour eux, prié avec eux, et ils ont été libérés instantanément. Ce que les psychiatres ne peuvent pas faire, ce que les médecins ne peuvent pas faire, Dieu peut le faire. On parle ce matin d'alcoolisme. Dans ce prière, alcoolisme, les gens drogués, Dieu peut guérir et délivrer instantanément. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous le pratiquons? Nous prions pour une personne instantanément guérie. Il y a des gens qui sont venus vers moi de temps en temps, avec l'aide de Dieu, avec la bénédiction de Dieu, j'ai prié pour eux, instantanément guéri. Dieu peut le faire, parfois ça n'arrive pas et je n'ai pas la réponse. Parce que c'est Dieu qui guérit, ce n'est pas John, je suis pour rien. Oui, voilà, la difficulté est là. On n'a pas tous une réponse, mais Dieu a la réponse. C'est à moi de prier et c'est à Dieu de répondre. Et ça, c'est des choses qui m'aident beaucoup dans ma vie. Il y a un troisième verbe, c'est le verbe guider. Donc Dieu le Fils, c'est lui qui libère, qui délivre aujourd'hui. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que nous le croyons? Troisième chose, guider. Il y a deux verbes avec trois syllabes. Il y a deux verbes avec deux syllabes. Maintenant, on arrive donc à guider avec deux syllabes. Et ça parle du Saint-Esprit. Ça parle aujourd'hui, c'est le jour de Pentecôte. Merci pour l'échange ce matin, Jacques. Les mélodies n'étaient pas toujours correctes, moi je trouve. Mais ça, c'est John. Les mélodies étaient parfois plates. Il n'y a pas assez de mélodies de temps en temps, mais c'est moi ce que je pense. Mais les paroles sont merveilleuses. Parce que c'est tout un art. Guider, comment être guidé? On a besoin d'expérimenter Jésus ressuscité et vivant dans notre vie. La solution possible par le Saint-Esprit de Dieu, venu le jour de Pentecôte, que nous célébrons aujourd'hui. Et moi je pense aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont libres parce qu'ils ne travaillent pas. Demain ils ne travaillent pas non plus, c'est férié, mais ils n'ont aucune idée de ce que Pentecôte signifie. J'ai pu aller avec mon frère en Hollande et sa femme. Jusque maintenant, ils ne sont pas venus au Seigneur. Et j'ai parlé avec lui, il s'appelle Tony. Et je dis au téléphone, cette semaine, je dis, il y a Pentecôte. Mais je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui savent ce que ça veut dire Pentecôte. Nous sommes dans un monde. Être chrétien aujourd'hui, c'est rien dire. Christ ne veut rien dire, Jésus ne veut rien dire. Nous sommes dans un monde athée. Si on le veut ou si on ne le veut pas. Je crois si dans ma rue ou dans ma ville, s'il y a 100 chrétiens, ce sera beaucoup. C'est la ville de Roncq avec 13-14 000 personnes. S'il y a 100 personnes, merci Seigneur. Mais moi, je ne connais aucune personne dans ma rue chrétienne. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas, mais moi, je ne connais pas. Guider, comment être guidé? Alors, Pentecôte, ça parle du Saint-Esprit. C'est, je l'avais promis en Jean 14, verset 16. Selon Actes chapitre 1 et 2, les disciples sont réunis, ils ont attendu et ils ont prié ensemble, comme Jésus l'a dit. Beaucoup de ces disciples n'ont pas compris vraiment la mission de Jésus. Pourquoi je le sais? Qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus après sa résurrection? Est-ce que tu vas maintenant instaurer... Je vous écoute. Est-ce que tu es venu maintenant pour nous délivrer de nos ennemis? Pour un royaume visible, matériel. Ils ne pensent pas à leur cœur, être délivrés de leurs péchés. Ils n'ont pas vraiment, même les disciples n'ont pas compris la mission de Jésus, même après sa résurrection. Et aujourd'hui, donc, en Israël, ça grouille encore des gens qui moi je trouve c'est extrémiste, mais orthodoxe. Et ils attendent toujours le Messie, ça veut dire celui qui vient pour physiquement, pour délivrer Israël de leurs ennemis. Et ce sauveur ne va pas venir parce qu'il est venu. Ils attendent toujours leur sauveur, mais le sauveur est venu. Et Il n'accepte pas que Jésus est le Fils de Dieu, sauveur. Vous êtes au courant de tout ça? C'est ça le grand problème d'Israël aujourd'hui. Beaucoup de gens sont Israël, sont juifs, mais ils n'ont pas compris le salut de Jésus. Priez pour eux. Et ça me pèse, plus que je peux l'exprimer. Ensuite, donc Dieu, il a répondu. Ils ont attendu, ils ont prié, ils étaient liés ensemble pendant 10 jours, de l'ascension jusqu'à Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu, ils ont parlé en langue, le feu est venu, et le Saint-Esprit a changé leur vie. Ils ont commencé à parler avec énergie, l'énergie qui vient de Dieu. Et je pense, si vous voulez vraiment être des missionnaires pour le Seigneur dans votre pays, vous avez besoin de ce feu de Dieu, du Saint-Esprit. Et ça change tout. Quand on a le Saint-Esprit qui est à nous, on va témoigner sans qu'on l'avait cherché. Quand j'étais chez le... Mais ça, c'est juste un exemple. C'est le médecin avec Béril cette semaine, c'était mardi matin, 10h30, je pense. J'étais là chez le médecin. Il y a un homme qui est venu avec sa petite fille de 5 ans. Il était juste avant nous. Et parce qu'il était seul, il n'y avait pas d'autres personnes, j'ai parlé de Jésus avec cet homme. Parler de Dieu, je ne veux rien dire. Si vous parlez de Dieu, et j'avais mon Nouveau Testament avec moi dans ma poche, je le montrais, je dis, c'est le petit livre qui a changé ma vie. Ça parle de Jésus. Et je pense, Dieu nous anime et nous donne des possibilités qu'on n'a même pas cherchées. Les gens viennent et de temps en temps on peut ouvrir la bouche pour parler de Jésus. Faites-le pendant que vous pouvez, pendant que vous êtes en bonne santé, que vous avez encore, que vous pouvez réfléchir, que vous avez la santé pour le faire. Et le Seigneur va ouvrir les portes. Seigneur, donne-moi les portes ouvertes aujourd'hui. Et moi, je suis étonné de temps en temps ce que le Seigneur est en train de faire. J'ai connu une maman de 6-7 enfants à Tourcoing. Elle ne voulait pas bouger. Elle était religieuse, elle était catholique, elle ne voulait pas changer. Mais il y a 30 ans, il y a un changement en elle. Et jusque maintenant, ça tient. Elle est née de nouveau. Ses enfants ne suivent pas. Ils étaient tous pratiquement dans nos réunions d'enfants, réunions de jeunes. Mais la maman, elle a changé et elle témoigne. Elle était au marché de Tourcoing de parler de Jésus. Et moi, je trouve que c'est merveilleux. Quand Dieu touche un cœur et quand le cœur répond à l'appel de Dieu, ça change tout. Et moi, j'ai pensé, cette dame, combien c'est difficile. Ce que nous pensons difficile n'est pas difficile pour Dieu. Dieu peut ouvrir des portes pour vous, dans votre famille, dans votre entourage, et partout. Donc, j'arrive maintenant à ce quatrième verbe. Donc, on a aimé. Merci, Robert. Aimé, libéré, guidé, envoyé. Où est-ce que tu as trouvé ces quatre verbes? Mais ce n'est pas pour rien que tu as reçu, parce que moi je peux les employer aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que tu as reçu ces quatre verbes. Je peux les employer aujourd'hui. Mais chaque fois que vous venez dans cette salle, vous trouvez ces quatre verbes. Envoyer, ça vous concerne, ça me concerne. Parce que nous sommes envoyés. Pour terminer. Envoyés par nous, enfants de Dieu, pour obéir à l'appel de Jésus. Et être conduit par le Saint-Esprit pour témoigner. Acte 2, 4. Nous sommes appelés ambassadeurs de Dieu. Où est-ce qu'on trouve ça dans la Bible? Nous sommes ambassadeurs de Dieu. Dans quel livre? Hébreu? Non. Corinthiens. 2 Corinthiens 5, verset 20. Chers amis, il n'y a pas de temps à perdre et pas de chômage pour les ambassadeurs de Dieu. Je me fâche. Car il y a encore beaucoup de perdus autour de nous. Cette suggestion, ce que nous avons fait, Beryl et moi, de notre entourage, de notre voisinage. vertelt bij lange voisinage, entourage. Vous n'avez aucune idée, le français est une langue. Ma langue est assez dure, le néerlandais est une langue assez dure, mais le français est merveilleux. Entourage, voisinage. Oui, quel ménage. Priez pour vos voisins et par exemple offrez un calendrier biblique, ce que j'ai fait encore cette année. Ou offrez un livre chrétien, ce que j'ai fait aussi dans le passé, avec une lettre. Pour les faire connaissance avec les voisins, parce que ça change souvent. Un petit livre chrétien ou un calendrier biblique, comme ça les gens savent que vous êtes là. Avec une petite lettre. Je termine par la prière. Ma prière. Est-ce que vous voulez vous mettre debout, comme ça on va juste prier. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu fais pour nous aujourd'hui. Est-ce que vous voulez le dire après moi? Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu fais pour nous aujourd'hui. Vous voulez le dire après moi? Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu fais pour nous aujourd'hui. Tu intercèdes pour nous. Tu es le bon berger qui nous guide. Tu nous connais par notre nom. Tu nous donneras la victoire dans les combats de chaque jour. Gloire à ton nom. Amen. Et c'est terminus. Vous pouvez vous. Oui, vous pouvez vous asseoir. Je vais vous dire juste, c'est pas une blague, mais c'est la vérité. J'ai appris à l'école le néerlandais et deuxième langue, c'était le français. Troisième langue que j'ai appris, c'était l'anglais. Quatrième, c'était l'allemand. J'étais dans un centre chrétien et quelqu'un m'a dit, est-ce que vous connaissez aussi le latin? J'ai dit un petit peu seulement. Omnibus, autobus, terminus. Terminus.